un focus sur la nouvelle exposition du lieu d'art La Halle à Pont-en-Royan, à suivre du 31 janvier au 2026, avec bien sûr l'artiste en présence Joanna Perret. Et pour nous introduire ses œuvres à découvrir donc au lieu d'art, le mot l'introduction par Giulia Turati, commissaire d'exposition et responsable du lieu d'art. Bonjour Giulia.
Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère vous voir nombreux dans cette nouvelle exposition qui ouvre un cycle du projet d'exposition pour les 40 ans de La Halle en 2026. Toute l'équipe est ravie d'accueillir Joanna Perret avec ce projet d'exposition Jour Blanc, une expo qui est 100% peinture à l'huile, hein, on verra, c'est important de le souligner. Et une exposition aussi qui nous, de par les titres aussi, parce que c'est un titre qui évoque tout de suite une certaine atmosphère, qui évoque aussi par contre la couleur. Des sensations un peu de brouillard, de pas être dans quelque chose d'éclair et stable. Donc un titre donc ouvre à plusieurs possibles et des œuvres qu'on verra plus en détail avec l'artiste qui sont aussi, j'ai envie de dire, entre plusieurs perceptions, entre plusieurs sensations aussi qui provoquent. Il y a des choses qu'on voit avec nos yeux, qu'on devine parfois, c'est long. Je veux dire, il y a tout de suite, on va dire qu'on on approche l'œuvre de Joanna, il y a tout de suite quelque chose de très beau, de même presque contemplatif qui émerge. Il y a des formats qui sont aussi très grands, donc le corps est vraiment englobé dans sa peinture. Et puis, quand on commence à comprendre pourquoi elle peint certains sujets, pourquoi elle est peinte de cette manière, il y a une petite sensation d'alerte, de vigilance, de conscience en tout cas du temps dans lequel on vit qui émerge. Donc, on est vraiment avec Joanna toujours dans un entre-deux, quelque chose qui est très attractif, mais qui peut effectivement éveiller aussi des points plus de vigilance et de prise de conscience. Donc j'espère justement qu'avec cette exposition, que l'exposition trouvera son public et qu'on puisse justement être un peu dans les rôles primordiaux de l'art aujourd'hui, de faire du bien. Et du bien pour les yeux et des biens aussi pour l'esprit. Donc voilà, c'est un peu ça les souhaits et les vœux dans ces débuts d'année 2026 pour nous et notre public.
Et 4 décennies donc d'art contemporain, oui. Au lieu d'art, nous en reparlerons tout à l'heure, pour de nombreux événements à découvrir, à suivre. Bien bonjour Joanna Perret.
Bonjour.
Jour Blanc, c'est un certain intitulé qui suscite un peu notre curiosité, qui nous amène au lieu d'art à Pont-en-Royan, au lieu d'art La Halle, pour cette exposition. Alors vous êtes artiste peintre, comme le soulignait Giulia, et la montagne semble être, à la vue déjà de vos œuvres, votre terrain d'action, d'inspiration et de considération d'éléments naturels, quelque peu aussi anthropologiques, et peut-être justement expliquer un peu l'intitulé Jour Blanc, ce caractère interactif entre l'humain, la montagne, sur une échelle de temps qui vous appartient en tant qu'œuvre d'art et puis aussi sur tout ce qui vous a inspiré en matière d'humanité, on pourrait dire.
Alors pour commencer par la question de la montagne, moi je viens de la vallée du Mont-Blanc, j'ai grandi là-bas, donc indirectement les montagnes, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, je me suis pas dit je vais travailler sur les montagnes parce que j'habite dedans, au début c'était pas forcément mes sujets de prédilection, mais le temps faisant, un moment c'est arrivé d'une manière évidente où je me suis mise à peindre mon environnement parce que quelque part c'est ce que je connais le mieux, donc c'est ce dont je peux parler le mieux, et ce qui me permet d'avoir plusieurs portes d'entrée sur la question de la perception du paysage, du réel, et aussi sur l'humanité, quelque part. Parce que le territoire du Mont-Blanc, le territoire alpin, c'est un territoire qui est extrêmement peuplé, qui est aussi utilisé par les hommes, enfin par les humains de manière générale, depuis extrêmement longtemps. Que ce soit la vallée dans laquelle j'habite, qui est la vallée de l'Arve, donc qui est la vallée du décolletage. Le décolletage qui est une industrie de métallurgie, de haute précision, pour faire des petites pièces de métal par rapport à l'horlogerie suisse, donc ce qui a peuplé très 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 densément ma vallée, et notamment aussi les montagnes dans les hauteurs par l'industrie du tourisme. Donc paysage égale nature, mais égale humanité et égale impact aussi, donc il y a tout ça qui est à voir. D'où aussi le jour blanc, donc le jour blanc qui est un mot qui relie, enfin moi j'aime beaucoup, que ce soit dans mon travail, dans mes titres, quand il y a plusieurs portes d'entrée qui vont réouvrir les perceptions et le champ des possibles d'une manière générale. Donc donc le jour blanc, déjà d'un point de vue, on va dire météorologique, c'est un jour de brouillard, où on voit rien, littéralement. C'est vraiment ce qu'on peut appeler la purée de petits pois, où à moins de 2 mètres de l'objet, on voit rien du tout. Et donc, c'est notamment connu dans les sports de montagne, en ski, où c'est déconseillé d'aller skier en jour blanc, parce que, étant donné que le sol est blanc par la neige, et donc le ciel est blanc par le brouillard, eh ben, on ne voit pas la différence entre le sol et le ciel. Et donc, du coup, ça induit une perte des repères qui est totale. Et en fait, il y a même chez certaines personnes, ça peut provoquer des nausées, des mal de tête, des vomissements, parce qu'on perd les repères. Et donc, c'est très dangereux d'évoluer en extérieur dans ce genre de milieu. Donc, il y a ce premier rapport qui est littéral, on va dire, qu'est-ce qu'un jour blanc ? C'est ça. Donc, il y a la question de la perception qui tout de suite fait écho à mes intérêts de peintre direct, que ce soit dans la picturalité ou dans le concept. Plus dans le jour blanc, il y a aussi la notion de lumière d'une manière globale qui... donc ça, c'est plutôt un rapport, on va dire, dans la physique qui est intéressant, où la lumière devient diffuse, il n'y a plus de source lumineuse unique, et la lumière vient d'une totalité, un peu comme dans mes tableaux. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la lumière vienne du tableau et non pas de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est le pigment avec sa qualité colorimétrique qui doit, et puis surtout les accords de couleurs qui vont être faits à l'intérieur, qui vont générer une luminosité. C'est pour ça que je préfère d'une manière générale que mes tableaux soient exposés soit dans des espaces en lumière totalement naturelle pour qu'il y ait une évolution de la lumière et des moments avec très peu de lumière, le matin et le soir, ou quand c'est de la lumière artificielle, qu'il n'y en ait quasiment pas, pour justement laisser le temps à l'œil de s'habituer, qu'on puisse commencer à percevoir ce qu'il y a dans la peinture avec du temps, comme un jour blanc, où au début, on ne va rien voir. Et c'est en évoluant dans ce jour blanc où les formes autour de nous vont apparaître, un sapin, un pylône, un animal, une autre forme humaine. Et c'est vraiment en bougeant dans le jour blanc qu'on va voir les choses apparaître. Et devant mes tableaux, c'est en bougeant devant mes tableaux que les choses vont apparaître.
Alors, avant de creuser un petit peu plus, hein, ce qui apparaît justement dans les tableaux, en parlant de votre technique, hein, qui donne justement tout cet aspect de couches successives, hein, ces strates.
Mais du coup, là, ce que vous me dites, ça me rappelle aussi, il y a un paramètre du jour blanc qui est intéressant, c'est la perte de temporalité, étant donné que la lumière est filtrée. On ne sait pas si c'est le jour, le matin ou l'après-midi. Donc, là, je fais à nouveau un rebond. Et par rapport à la question de la peinture, oui, effectivement. Donc moi, je suis peintre à l'huile et j'utilise une technique ancestrale de la peinture à l'huile qui date principalement de la Renaissance, je dirais même début Renaissance, peinture hollandaise, et qui a été magnifiée par De Vinci, qui est le glacis, donc plus connu par De Vinci sous le mot de sfumato, donc effet de fumée. Donc on y retourne encore, esprit, jour blanc, tout ça. Et en fait, ça, c'est vraiment un cumul de couches extrêmement fines, donc qui s'appelle le glacis, qui porte bien son nom. Du coup, comme la glace, c'est transparent et c'est légèrement coloré. Pour vulgariser, je dirais que c'est un peu comme un sirop de framboise, de menthe. Si on étale ça sur une feuille de papier, on va avoir un léger vernis coloré. Et ben, le glacis, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qui permet d'avoir, par le cumul des couches, déjà un dégradé qui va être complètement parfait, où justement, à force de mettre une toute petite couche sur une toute petite couche sur une toute petite couche, il y a un moment, on va arriver à une fluidité de la transmission des couleurs qui va être imperceptible. Ça veut dire qu'on va passer d'un bleu à un rose avec toute une stratification de violet, mais à aucun moment, on va pouvoir dire « Ah, là, c'est le changement, là, c'est la rupture. » Donc, ça génère une harmonie, ça génère une transition, ça génère une transparence, ça génère une lumière aussi. Et donc ça, c'est un nombre de couches qui est assez infini et c'est variable en fonction de la qualité du pigment. Il peut y avoir, on est sur des dizaines de couches minimum, je dirais entre 10 et 20 grand minimum. On est plutôt sur 20, 30, voire 50 en moyenne, voire plus. Parce qu'en fait, il y a certains pigments qui sont très denses, donc qui permettent de mettre moins de couches, et il y en a certains qui sont extrêmement transparents, comme les bleus de Prusse, qui sont utilisés dans la salle 3, qui sont justement donc la dernière salle quand on visite l'exposition dans le sens de marche du spectateur, où donc c'est un bleu de Prusse qui a une très grande transparence. Donc ce bleu, si on met une toute petite couche, il est très clair, limite comme un ciel, un bleu ciel. Et si on met beaucoup de couches, là je pense que sur cela on doit dépasser les 50 couches, on arrive quasiment sur du noir. Donc il y a une variabilité de la tonalité, non pas de la nuance. Le ton, c'est l'intensité, et la nuance, c'est le changement de couleur. Et donc là, on a une variabilité dans le ton qui est quasiment infinie. Et donc ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre chaque couche, c'est entre 10 jours et 3 semaines de séchage. Donc on est sur des temporalités extrêmement longues. C'est minimum 6 mois pour un petit tableau, et un grand tableau, ça peut aller jusqu'à 2 ans d'atelier, on va dire.
Alors ce qui est assez surprenant quand on est face à vos différents tableaux, c'est prendre le temps pour les voir, puisque ceux-ci se dévoilent petit à petit, avec aussi une échelle de temps pour le visiteur de découvrir finalement tout ce qui habite ces œuvres.
Sur la notion de la temporalité, justement, que ce soit dans mes tableaux ou dans la découverte pour le spectateur, effectivement, il y a cette volonté qui maintenant est claire. Au début, quand j'ai commencé à peindre, je ne l'ai pas conceptualisé comme ça en me disant tiens, je vais faire des trucs qui ne se voient pas bien pour forcer les gens à rester longtemps devant. Ce n'était pas l'idée. Par contre, le fait de passer du temps à peindre, ça a toujours été le cas, vu que j'ai toujours été peintre à l'huile. Et avec le temps, j'ai commencé à y réfléchir et à me dire que si, en fait, je pense qu'inconsciemment, c'est quelque chose qui m'intéresse malgré tout, car on vit quand même une époque qui est rapide, qui demande de la rapidité et qui laisse peu de temps au temps libre, qui laisse peu de temps à la contemplation, où on est toujours poussé à être plus performatif, à être plus rapide, plus efficace. Ben on en perd le temps de la contemplation qui amène à la poésie, qui amène à la créativité. Et en fait, moi, ce que j'essaye quelque part, peut-être indirectement avec mes peintures, c'est de ramener les gens à cette contemplation, que ça peut être de la nature, de la montagne, regarder un brin d'herbe qui va bouger avec le vent, écouter le bruit des feuilles, des arbres, le bruissement, le bruit de l'eau, ce genre de choses, enfin, qui ne peuvent être bien compris qu'avec du temps. C'est pas en 3 minutes, c'est pas en 5 minutes. C'est une sorte de méditation, en fait, c'est ça, d'une certaine manière. Et moi, c'est ce que je fais quand je peins. C'est-à-dire que quand on fait ce type de tableau, ça veut dire qu'on va être face à la toile pendant des jours, des heures, et c'est pas une seule toile à la fois, c'est plusieurs toiles en même temps, parce que étant donné que il me faut trois semaines, on va dire 10 jours en moyenne de séchage entre deux toiles, je peins pas qu'un tableau à la fois, j'en peins plusieurs. Donc c'est pour ça que je fonctionne en série d'ailleurs, et qu'il y a beaucoup de tableaux qui ont les mêmes couleurs et les mêmes nuances, parce que je fabrique ma peinture aussi, donc j'en fais donc avec du pigment, avec de l'huile et tout un tas d'autres matériaux, donc je fais une quantité définie de couleurs. Quand il y en a plus, il y en a plus, et donc ça prend du temps aussi. Et donc en fait, c'est ça, quand je fais des sessions d'atelier, donc ça veut dire des journées d'affilée. On est sur des... avant je faisais des 12 heures, mais non, je suis un peu plus âgée, je tiens moins 12 heures, on est plutôt sur 6, voilà. Mais pour dire, c'est un certain nombre de temps dans la journée quand même où on est seul face à la toile. Donc en fait, c'est vraiment une sorte de méditation à nouveau où on est dans, en pleine conscience. Et en fait, du coup, quand on peint, je pense de manière générale, quand on fait de l'art, on ne peut qu'être en pleine conscience de ce qu'on fait, parce qu'en fait, c'est aussi comme quand on marche dans la montagne. Si on n'est pas en pleine conscience de où on met notre pied, on se casse la gueule, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et dans l'art, c'est la même chose. Si on n'est pas en pleine conscience de ce qu'on fait, il y a un moment où on va rater le geste, on va rater la couleur, on va rater la transition, et on sera dans quelque chose de mécanique et plus dans quelque chose qui va être sensible. Et donc, il y a cette notion de, justement, de contemplation, d'être dans le présent, dans l'action présente, que ce soit dans le faire ou dans l'observation. C'est quelque chose que moi, je vis dans l'atelier, que je vis quand je suis à l'extérieur, parce que donc j'habite pas à la campagne, mais on va dire à la ville-montagne, c'est particulier chez moi. Mais je suis au milieu de la nature et je suis très souvent dans la nature. Et donc, c'est cette même notion d'être pleinement dans notre action, dans le présent, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on ressent, que je voudrais essayer de faire, de retranscrire dans mes expos d'une manière générale. Et aussi, j'invite les gens qui vont venir voir mon exposition ici ou ailleurs d'ailleurs, revenez à d'autres jours différents, à d'autres moments, même si c'est pas avec la lumière naturelle ici, parce que c'est une lumière indirecte, mais c'est vous serez dans des moments de perception différente. Ce sera le matin, ce sera le soir, vous aurez mangé, vous aurez pas mangé, vous aurez parlé à quelqu'un, vous aurez été tout seul, vous aurez été content, vous aurez pas été content. Et en fait, juste d'être dans des états perceptifs différents émotionnel différent, permet de percevoir les œuvres différemment. Et vous allez bouger différemment autour des toiles, vous allez découvrir de nouvelles couleurs, des nouvelles nuances, des nouveaux motifs. Voilà.
Le visiteur aussi est immergé dans une progression de vos toiles, puisque de la salle d'entrée jusqu'au fond, cela, on peut dire, donne des tonalités qui montent en puissance.
Oui, justement, du coup, on a travaillé l'accrochage avec Julia sur ce que j'ai beaucoup de... Donc, en fait, cette expo rassemble quand même pas mal de périodes de ma vie de peintre de ces 10 dernières années, à peu près, où donc j'ai commencé avec quelque chose, on va dire, plutôt neutre au sein des couleurs. Donc, on était plutôt dans des gris, un peu plus du côté du jour blanc, justement. Et ça, c'était en rapport direct avec la vallée de chez moi et avec des choses dont Julia a parlé au début. Peut-être un peu moins positive par rapport à une réalité de la vallée, donc qui est la pollution. Donc forcément, on est dans des tonalités plus grises, plus éteintes, mais qui restent quand même séduisantes. C'est-à-dire, j'essaie toujours qu'il y ait cette notion de séduction. D'ailleurs, terme que je préfère à la notion de beauté. La beauté est subjective, la séduction est un peu plus universelle, je trouve, d'une manière globale. Donc c'est ce que j'essaie d'avoir dans cette première salle. La deuxième salle, effectivement, c'est mes peintures les plus récentes, qui datent de 2025, qui sont bien plus lumineuses, bien plus colorées. Et la dernière salle, c'est une salle beaucoup plus nocturne. D'ailleurs, le sujet était l'expérience nocturne de la forêt. Donc, on a travaillé toutes les deux sur cette évolution.
Avec aussi des œuvres qui sont plus en lien avec la perception de la profondeur et de l'intensité aussi du pigment, qui sont présentées dans la vitrine Place de la Halle, dans notre showcase, où là, on a vraiment, en tout cas, on s'amuse à dire qu'on va tomber dans le trou du lapin blanc, d'Alice, voilà. Donc il y a vraiment aussi dans ce qu'on voit et dans ce qu'on peut ressentir, il y a une diversité malgré tout de sujets, il n'y a pas que du figuratif, il y a des toiles qui sont vraiment 100% abstraites. Des fois on voit des figures quand c'est complètement abstrait, des fois on voit pas les figures quand il y en a, donc c'est pareil, on rentre toujours dans ces jeux optiques et des perceptions. Mais justement, par rapport effectivement à la pollution, surtout dans la première salle, je pense peut-être intéressant de souligner le fait que je trouve que c'est un beau contraste. Dans la première salle, on a un peu presque en reproduction documentaire, on ne peut pas dire ça de ta peinture, mais quelque chose qui rend bien cette sensation-là. Dans la deuxième salle, on est dans les pigments flous, vraiment complètement irréalistes, enfin en tout cas artificiels. Et puis on retombe dans la nuit, donc il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là que je trouve intéressant. En tout cas, quand on avait réfléchi le cheminement, d'être dans quelque chose qui est artificiel, mais qu'on perçoit comme naturel dans un certain environnement. Des images des montagnes qui sont complètement naturelles, mais qui sont peintes avec des couleurs fluorescentes. Et puis, on retombe dans l'obscurité où il n'y a que les yeux... Sans artifice et sans mécanique qui peuvent faire découvrir certaines images.
Parce que déjà, il y a des filtres naturels et d'autres qui sont provoqués et qui composent un peu votre environnement.
Exactement. Du coup, je vais un peu rebondir sur la question de la pollution. C'est d'ailleurs la genèse de tout mon travail sur le paysage. Donc, comme je disais au début, je ne travaillais pas forcément là-dessus. Mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Peut-être, parce que ça fait un peu de bruit quand même. C'était il y a pile 10 ans, pendant l'hiver 2015-2016. Ouais, donc pile 10 ans, en fait. Donc, chez moi, dans la vallée de l'Arve, Cluse, Sallanches, par là-bas, on a eu le record de France, qui est toujours imbattu à l'heure actuelle, du nombre de jour avec le pic de pollution maximum, 36 jours d'affilée en pic de pollution. Voilà, en termes de particules fines, on a battu la Chine. Alors, pas la Chine au quotidien, mais sur la quantité d'un coup qu'il pouvait y avoir, c'était quand même assez extraordinaire. En plus, on a aussi ce brouillard naturel de montagne qui est là l'hiver, mais qui, lié à la pollution, est encore plus renforcé. Et en fait, ça a été tellement violent que pendant ces 36 jours d'affilée, on n'a pas laissé les enfants sortir dans les cours de récré pour qu'ils puissent courir. Pour vous dire à quel point c'était grave. Il y avait des saturations dans les hôpitaux, enfin c'était assez terrorisant, hein, vraiment c'était le mot. Ce qui d'ailleurs moi m'a fait travailler là-dessus, c'était vraiment l'idée au départ. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvée un petit peu là-dedans impuissante, à flipper comme tout le monde. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire en fait, qu'ai-je en mon pouvoir. Et aussi important, c'est qu'à cette période on n'en parlait pas du tout. Donc maintenant c'est acté que la vallée de l'Arve est polluée, vous tapez vallée de la mort sur internet, c'est nous qui sortons. Voilà, c'est bon, c'est fait. Mais sauf que moi c'est depuis que je suis petite que ça existe, donc il y avait une grosse omerta qui était là-dessus. Donc voilà, moi finalement je me suis dit que puis-je faire, pas grand chose à part peut-être documenter. Voilà, je suis artiste, peintre. Voilà, du coup en fait les peintres ont quand même toujours eu aussi, entre autres, ce rôle qui est de documenter la réalité. Donc je me suis mise dans la position peut-être un petit peu bête et méchante du peintre de paysage. Donc j'ai peint ce que j'ai vu. tout simplement. Donc, je suis sortie. Donc, moi, je peins d'après photo. Je ne suis pas une peintre sur le motif. Si je ne pourrais pas, j'aurais les mains qui gèleraient, vu ce genre de période. Donc, je suis sortie. J'ai pris des photos de la brume, tout simplement, avec les choses qui disparaissaient complètement. Je suis rentrée et j'ai commencé à travailler justement cette technique, qui est la technique du glacis, avec en plus, là, je faisais des frottages, des grattages, j'essayais de trouver des trucs pour reproduire cette sensation de disparition et de brume qui vraiment était très, très importante. Et donc, ça, c'est la base. Donc, ça, c'est mes peintures grises. Je crois qu'elles sont tout gris, full gris. Il y en a une qui a fait l'objet de l'acquisition de la collection du centre d'art de Vénissieux, Madeleine Lambert, qui vient d'acquérir ma toile qui vraiment parle de ça. Là, pour le coup, c'est celle-là. Voilà. Elle s'appelle Fantôme. Si elle sort, allez la voir. Comme ça, vous saurez. Et suite à ça, là, j'ai développé du coup toutes les peintures qui sont dans la salle 1 où il y a cette pollution. Qui est une pollution, du coup, là, cette fois, en dehors des jours de brouillard. Du coup, c'est pas que gris. Il y a d'autres couleurs étranges, comme notamment du violet, qui est très, très représentatif de la pollution. Et ce rose un peu fluo aussi, qui, vous remarquerez dans le ciel, quand le ciel est fluo, vraiment violent, c'est pas naturel qu'il y a de la pollution dedans. Ça fait partie des symptômes qu'on peut utiliser pour reconnaître les endroits pollués. Et en fait, je me suis posé la question aussi, en fait, je me suis fait la remarque plutôt que quand je monte, donc moi j'habite dans la vallée, et quand je monte au-dessus, pas besoin d'aller très haut, hein, il suffit d'aller sur un col à 1000, et on voit en bas cette espèce de smog, c'est vraiment le mot, violacé, un peu rosâtre, parfois orange aussi, qui tapisse le fond de la vallée. Donc c'est très angoissant quand on vit dedans et qu'on voit ça. Et après, quand on fait un espèce de pas de côté, ce qui est un peu une vision baudelairienne de la réalité, on peut dire ça, c'est la beauté du désastre, quelque part. Et si on enlève tout ce côté anxiogène, c'est beau, concrètement, c'est de belles couleurs. Donc, pourquoi ne pas exploiter ça pour faire un enregistrement du réel, que ce soit pour en parler à notre échelle et à notre heure, ou pour le futur, d'une certaine manière. Voilà, donc c'est comme ça que moi je me suis positionnée par rapport à la question de la pollution et de la retranscription du réel à travers la peinture de paysage. Et ensuite, mon travail a évolué avec cette même technique de disparition du motif vers d'autres sujets, comme la nuit, comme les mythologies, comme aussi des choses qui sont purement picturales, comme la deuxième salle, effectivement, où je travaille avec, là c'est plutôt l'harmonie des couleurs d'une manière globale qui m'intéresse. Je garde le motif montagne pour le faire disparaître en fond, car c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Mais du coup, ça devient un petit peu une excuse, quelque part. C'est un peu comme je m'affilie aussi aux impressionnistes, par exemple, comme Monet qui a fait, je crois, 80 fois la cathédrale, Cézanne qui a dû faire autant, si ce n'est plus, le Mont Sainte-Victoire. Enfin, voilà, il y a cette idée aussi de répétition du motif à travers des modifications d'ambiance lumineuse et de couleurs qui va modifier la perception de ce motif. Donc voilà, il y a toujours cette question qui est un peu philosophique aussi, de la question de la perception du réel et de, en fonction, comment on va rendre ce réel qui va être le même, la même montagne, avec un format différent, avec une couleur différente, avec un ensemble de couleurs différentes. Ça va être différent à chaque fois. Et aussi, comment le spectateur, comment lui va se positionner devant ce tableau qui va être le même, mais qui va se positionner différemment devant ce tableau, sur le côté, de loin, de près, aujourd'hui, demain, la perception sera différente, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la récurrence dans mon travail.
Et la lumière du lieu est une composante importante, j'imagine, pour découvrir vos tableaux. Est-ce que cela vous satisfait?
Oui, ici, on a la grande chance de pouvoir moduler l'intensité de la lumière, ce qui est très, 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 très bien. Ce n'est pas toujours l'occasion dans tous les lieux où j'ai exposé. Alors bon, après, on fait comme on peut, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Mais effectivement, quand on peut, moi, de manière générale, il vaut mieux que mon travail soit exposé en lumière basse qu'en lumière trop haute. C'est comme la photo. On a, pour ceux qui ont un peu des notions de photo, si on surexpose la photographie, en fait, on dit on crame l'image, c'est-à-dire que vraiment, on n'a plus de contraste, on n'a plus de couleur, tout est trop visible, donc il n'y a plus d'intérêt. Par contre, effectivement, il vaut mieux légèrement que ce soit sous-exposé, parce que l'œil avec le cerveau va faire la compensation. Donc, dans ce sens-là, c'est mieux. Et aussi, quand la lumière est basse, ça nous oblige à attendre, à rester devant, à justement réfléchir. Moi, plein de fois, des gens passent devant mes tableaux en faisant juste des monochromes ou des couleurs. Et ils s'arrêtent devant. Ah non, il y a un truc. Ah, ils reculent. Ah, ils avancent. Ah, et puis il y a une autre couleur. Ah, mais il y avait encore un autre truc. Ah, donc c'est vraiment le jeu de pousser, à bouger, à revenir, à repasser, à prendre le temps. Voilà.
Et que l'œil aussi se familiarise aux toiles. Et effectivement, c'est étonnant la manière dont on peut percevoir les choses, sans vouloir faire de comparaison ni d'analogie, mais sur les tableaux plutôt foncés, on a l'impression d'être, par ces couches successives, comme disait Soulage, l'outre-noir. Parfois, on pourrait presque parler d'outre-bleu dans certains des tableaux. Finalement, il y a vraiment du bleu après le bleu, et comme ça, on perçoit les strates.
Ben, c'est effectivement une remarque qui revient très souvent et je la prends absolument pas mal. C'est pas trop désagréable d'être comparé à Soulage. Et effectivement, il y a vraiment cette idée. Alors, plus que la question de l'outre noir, de l'outre bleu, enfin, moi, ce qui me plaît dans la démarche de Soulage, c'est la question que c'est la lumière qui fait le tableau. Donc, moi, c'est plutôt l'inverse, c'est le tableau qui fait la lumière, mais c'est la relation profonde entre la peinture et la lumière qui est extrêmement intéressante pour moi dans ce type de travail. Et oui, je pense que du coup, on peut y voir un lien clair, voilà.
De par déjà la technique.
De par la technique, voilà, oui. Alors après, à part que lui travaille vraiment en couches épaisses et c'est en fonction de comment ces couches allaient être étalées, moi je travaille en couches quasiment imperceptibles, mais c'est mais travaille aussi avec de la peinture à l'huile, donc c'est la qualité lumineuse de la peinture à l'huile, du fait que huile, gras, reflète la lumière. Voilà, c'est juste ça. On n'a pas la même manière de l'exploiter, mais on exploite la même ressource.
Eh bien, merci beaucoup, Johanna Perret. Et puis, on va tout de suite parler de ce qui concerne les dates, naturellement, pour visiter l'exposition. Un petit mot de Giulia Turati pour refermer cet entretien avec Johanna.
Oui, bien sûr. Donc, effectivement, vous pouvez rencontrer Johanna à vendredi 30 janvier à partir de 19h pour le vernissage. Donc, l'exposition, elle est visible à la halle jusqu'au 2 mai. Mais je tiens quand même à informer nos auditeurs, au public qui nous écoute. Johanna, elle a un atelier à Cluses, mais sur site, il y a aussi un lieu d'exposition qu'elle a monté, un lieu donc indépendant, associatif, qui s'appelle Projet Relief, à Cluses donc, et qui accueille, surtout sur les mois de printemps, été et début de l'automne, accueille des expositions qui sont vraiment de qualité. Bravo Johanna aussi pour ces projets indépendants, autonomes, qui militent aussi pour, malgré tout, l'art contemporain hors des grands centres urbains. Donc allez voir Johanna à Cluses, à Projet Relief aussi.
Merci beaucoup. On laisse le micro à Jonathan Ferrara, médiateur du lieu d'art, pour vous expliquer un petit peu ce qui va aussi se dérouler en termes d'animation autour de l'exposition, les temps forts.
Bonjour. L'exposition se visite jusqu'au 2 mai, comme on le disait. Je vais aussi vous rappeler les horaires du centre d'art, qui est ouvert le mardi et le vendredi de 16h à 19h, et les mercredis et samedis de 9h à midi et de 14h à 18h. Et puis vous pouvez aussi ouvrir vos agendas parce qu'on vous invite à nous rejoindre pour deux rendez-vous autour de l'expo. Le premier, ce sera le vendredi 6 mars à 18h30 pour une visite commentée de l'exposition de Johanna Perret. Une visite un peu spéciale parce qu'elle vous permettra de repartir avec une contre-marque pour découvrir un beau spectacle qui d'ailleurs traite lui aussi de questions environnementales. Un spectacle qui s'appelle Fondre de la compagnie Infini Dehors et qui sera présenté au Diapason à Saint-Marcellin le vendredi 13 mars à 20h. Le second rendez-vous, ce sera pour le samedi 25 avril, la semaine précédant la fin de l'expo. On vous invite à nous rejoindre à 14h30 pour découvrir ou redécouvrir l'exposition autour d'un petit temps d'atelier où on fera du dessin, mais aussi un peu de l'écriture. Une proposition qui est ouverte à toutes et tous à partir de 6 ans, à faire en famille ou entre amis. Et puis, pour les groupes et les scolaires cette fois-ci, on vous propose de venir découvrir le travail de l'artiste grâce à différents formats de visites et d'ateliers adaptés aux âges et situations des participants et participantes. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et organiser votre venue. Et vous pouvez retrouver toutes nos infos et actualités sur notre site web www.lahalle-6pontorroyant.org et des compléments aussi en nous contactant au 04 76 36 05 26. Et un dernier mot pour vous dire que l'exposition, les visites et les ateliers proposés par le Centre d'Art sont en accès libre, gratuit et ouvert à toutes et tous, donc n'hésitez pas à en profiter sans modération. Et vous pouvez retrouver toutes nos infos et actualités sur notre site web www.lahalle-6pontorroyant.org et des compléments en nous contactant au 04 76 36 05 26. Vous pouvez aussi suivre d'ailleurs toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux avec le @lahalle Centre d'Art tout collé.
Eh bien, merci Jonathan Ferrara. Merci à Joanna Perret, l'artiste du moment. Et merci Giulia Torati pour votre disponibilité. À bientôt.
À bientôt.